Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Il y a 50 ans, entre 1975 et 1979, le Cambodge sombrait dans l'un des épisodes les plus tragiques du XXe siècle, le génocide perpétré par les combattants communistes cambodgiens, les Khmers Rouges, sous la direction de Pol Pot, soutenus par leurs alliés vietnamiens et pas seulement eux. En moins de 4 ans que dura cette révolution maoïste, devenue totalitaire, génocidaire et ultranationaliste, près de 2 millions de personnes, un quart de la population ont péri, victimes d'exécutions, de famines, de travaux forcés ou de purges idéologiques. Le 17 avril, c'est la date choisie par le président chinois Xi Jinping pour fouler le sol cambodgien dans le cadre de sa toute récente tournée en Asie du Sud-Est. Le 17 avril marquant le jour anniversaire de l'entrée des Khmers Rouges dans Phnom Penh et le début donc de leur campagne agraire de terreur appuyée par le Parti communiste chinois. L'étape cambodgienne du président chinois a été l'occasion de la signature d'accords sur les infrastructures, la santé, la finance. La coopération militaire a par ailleurs été renforcée, notamment avec l'expansion de la base navale de Ream, suscitant des interrogations quant à une éventuelle utilisation militaire chinoise. Plus grand partenaire commercial du Cambodge, la Chine est le premier investisseur étranger dans le pays et détient plus du tiers de la dette extérieure cambodgienne, soit 11 milliards de dollars. Phnom Penh compte aussi parmi les soutiens les plus fiables de Pékin en Asie. Pays très dépendant d'aide étrangère, le Cambodge a vécu comme un rude choc la fermeture par Donald Trump des programmes de l'USAID, sans compter l'impact des barrières douanières, les États-Unis étant le plus grand marché pour les exportations cambodgiennes. Regard sur le défi, sur les défis de ce petit État de 17 millions d'habitants, pris en tenaille entre ses deux grands voisins vietnamiens et thaïlandais, surplombé par le géant chinois. Pour cela, nos invités, Marie-Sybille de Vienne, professeure émérite à l'INALCO, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et directrice de la revue Péninsule. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Yvonne Guillou, anthropologue, directrice de recherche au CNRS en poste au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'Université Paris-Nanterre, autrice de Puissance des lieux, présence des morts sur les traces du génocide de Khmer Rouge au Cambodge, paru aux éditions Société d'ethnologie. Et co-directrice en chef de la revue Mousson. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous par téléphone depuis Phnom Penh, Raoul-Marc Génard, docteur en sciences politiques et en études Khmer de l'INALCO, conseiller diplomatique du ministre cambodgien des Affaires étrangères et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La politique étrangère du Cambodge aux éditions Youfeng. Bonjour.
Bonjour.
Il y a 50 ans, donc le 17 avril, les Khmers Rouges entraient dans Phnom Penh, la capitale, et installaient un régime génocidaire qui a duré 4 ans. Le 7 janvier 1979, l'armée vietnamienne renversait les Khmers Rouges et installait au pouvoir un nouveau régime communiste, lequel perdure encore aujourd'hui, tout en ayant été transformé, on en parlera. L'occupation militaire vietnamienne dura jusqu'à 1988 et fut suivie par des accords de paix signés en 1991 à Paris. L'homme fort du Cambodge, c'est aujourd'hui Hun Manet. Hun Manet est le fils de Hun Sen, qui a été commandant sous Pol Pot avant de fuir au Vietnam en 1977. Hun Sen a cédé le pouvoir à son fils en 2023, après l'avoir occupé pendant 38 ans. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Yvonne Guillou, que l'héritage du génocide est un dossier verrouillé au Cambodge ?
Moi, je ne dirais pas ça. Si on regarde les choses sur le très long terme, on voit, enfin, depuis la fin de ce génocide, donc début 79, on voit que les politiques mémorielles d'État, comme partout ailleurs d'ailleurs, ont évolué en fonction du temps, en fonction du présent. Le passé est toujours revu en fonction du présent. C'est le cas pour les politiques mémorielles d'État. On peut parler des politiques mémorielles d'État, leur évolution. On peut aussi parler de tout le travail mémoriel qui a été fait par la population elle-même. Pour ce qui est des politiques mémorielles d'État, on constate déjà très rapidement, après la chute du régime Khmer Rouge, une volonté du nouvel État cambodgien, qui va assez vite s'appeler la République populaire du Kampuchea, avec l'aide vietnamienne, donc comme vous l'avez dit, qui a duré 10 ans. On voit mettre en place des actions très très fortes, avec l'aide donc de conseillers vietnamiens. D'une part, l'ouverture d'un musée du génocide à Phnom Penh, très rapidement, et d'autre part, un premier procès de Pol Pot et Ieng Sary, donc les deux des dirigeants principaux, ce ne sont pas les seuls, mais des dirigeants principaux du Kampuchea démocratique. comme des actions très très fortes vis-à-vis de la communauté internationale occidentale, hein, parce que la RPK, donc la République populaire du Kampuchea, est soutenue par le bloc socialiste et donc par les Vietnamiens à l'époque aussi. Mais un discours, un message destiné à la communauté internationale occidentale pour dire « nous venons de mettre fin à un génocide ».
Alors, et d'ailleurs, les accords de 1991 sont des accords qui ont été signés, je parle sous votre contrôle, qui ont été signés à Paris. On part peut-être pour retrouver Raoul Marc Génard à Phnom Penh. Monsieur Génard, comment résonne en vous ce que vient de dire Anne-Yvonne Guillou ? On peut souligner qu'il n'y a pas eu vraiment, alors là aussi je parle sous votre contrôle, mais les cérémonies d'anniversaire, en tout cas pour commémorer ce début de génocide en 1975, elles n'ont pas été franchement très autorisées dans tout le Cambodge. Raoul Marc Génard.
En fait, la mémoire des victimes du génocide cambodgien, elle est honorée chaque année le 20 mai. Très vite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la mémoire d'État, le procès qui a été organisé en juillet-août 1979, avant celui organisé conjointement avec les Nations Unies, et puis la création du musée du génocide sur le site du centre de torture S21. Mais il faut ajouter que très vite aussi, le 20 mai, alors ça s'est appelé longtemps pendant les années 80, pendant les années de la République populaire du Kampuchea, la journée de la haine. Et puis, les autorités ont considéré que c'était peut-être pas la meilleure expression à utiliser. Et donc, chaque année, le 20 mai, il y a une très, très grande cérémonie d'hommage aux victimes de cet holocauste cambodgien.
Le 20 mai correspondant à quelque chose de précis, Anne-Yvonne Guillou ?
Alors, il y a plusieurs théories, ce que j'ai entendu sur place, voilà, il y a plusieurs discours. Ce serait le début de la collectivisation, donc avant la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges, ce seraient les premières formes de collectivisation à la campagne. Et ce serait la date du 20 mai qui aurait été retenue.
Alors, le premier procès, Marie-Sybille de Vienne, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. On vous gardera beaucoup sur la géopolitique qui vient un petit peu plus tard, mais si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas. Je poursuis pour qu'on évoque peut-être question des procès, vous l'avez évoqué, un premier procès, puis un deuxième sous l'égide de l'ONU, c'est tout de même 30 ans après le génocide. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi avoir attendu 30 ans ? Et Pol Pot, que vous évoquiez à l'instant, Anne-Yvonne Guillou, il n'a jamais été condamné. Et finalement, ces procès, ils ont conduit à la condamnation de 3 responsables du génocide cambodgien. C'est, j'allais presque dire, un bilan assez maigre.
C'est un bilan maigre, certes, sur le plan pénal, en tout cas. Sur le plan mémoriel, bon, je pense que c'est vraiment au cours des années qu'on saura si ce travail d'écriture, de manuel, etc. Il y a eu un énorme, dans le deuxième procès, donc le procès organisé par les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, ont aussi énormément conçu ce second procès, moins comme une justice pénale que comme une justice restaurative et commémorative, si on peut dire, c'est-à-dire en invitant des milliers de Cambodgiens à venir assister aux audiences, en écrivant des manuels, etc. Mais si ce temps aussi long s'est déroulé, c'est aussi parce que l'histoire du Cambodge a été extrêmement tourmentée entre-temps. Voilà, les conditions géopolitiques, justement, n'étaient probablement pas là pour que ce procès soit tenu. Donc, après les accords de paix donc d'octobre 91 signés à Paris, les Khmer Rouges faisaient partie de cet accord de paix. Hein, c'est la partie du Kampuchea démocratique en faisait partie. Donc, il était évidemment plus question de mettre en place un procès ou de juger ces actes génocidaires ou autres. La politique cambodgienne s'est déroulée de façon un peu tourmentée jusqu'à cette remise en question de 1997, qui est une sorte de coup d'État.
Puisque le 1997, vous nous rappelez, Anne-Yvonne Guillou ?
En 1997, de 93 à 97, donc sortie des élections sous tutelle onusienne, c'est donc le premier Premier ministre était le prince Ranarit et le second Premier ministre était donc Hun Sen. Et puis, bon, les équilibres de pouvoir s'étant modifiés, c'est Hun Sen, finalement, qui, en 1997, reprend le pouvoir, l'intégralité du pouvoir. Donc, l'histoire interne, même les mouvements internes de la vie politique cambodgienne faisaient qu'on n'était pas du tout sur une pensée de ces procès, etc. Et puis plus tard, après que l'extinction totale du mouvement Khmer Rouge, qui finalement intervient avec la mort de Pol Pot en 1998, et puis l'entrée du Cambodge un peu plus tard dans l'OMC, se pose la réintégration du Cambodge dans une communauté internationale occidentale, si on peut dire. Et à ce moment-là, se remettent en place les négociations longues, difficiles, pointu entre le gouvernement de Phnom Penh et puis la communauté internationale pour la mise en place de ces tribunaux.
Alors, il est vrai, et c'est assez largement souligné, qu'après cette période tragique, Raoul Marc Génard, le Cambodge, finalement, s'est retrouvé assez isolé sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... les États-Unis avaient combattu au Vietnam, fin de la guerre du Vietnam en 1975, et puis le début du génocide cambodgien, précisément en 1975 aussi, comme si les choses, l'allumette s'était allumée et étendue. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la manière dont la société cambodgienne s'est reconstruite? Je le rappelle, 2 millions de morts pour une population qui aujourd'hui fait 17 millions de personnes. Je ne sais pas combien il y avait de Cambodgiens en 1975, probablement
5
moins.
Environ.
Donc 2 millions, c'est une proportion absolument gigantesque.
7.
Raoul Marc Génard, comment la société cambodgienne s'est-elle reconstruite après ce génocide?
Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même souligner quelque chose qu'on ne peut pas passer sous le silence. L'intervention vietnamienne qui m'est faite au régime de Pol Pot a été condamnée à l'ONU par une majorité où se retrouvaient la Chine, les États-Unis et derrière les États-Unis, les pays occidentaux et ceux d'Asie du Sud-Est. Pendant 12 ans, le Cambodge a été complètement isolé. Et il n'a pas été question, malgré la demande faite par les autorités de Phnom Penh pendant toutes les années 80, d'avoir un procès. C'est après, il y a eu le procès organisé par les autorités cambodgiennes en juillet-août 79, qui a surtout permis à des survivants de toutes les catégories de la société cambodgienne de s'exprimer. C'était ça qui était très intéressant. Il y avait notamment une équipe de la télévision française qui a pu, on est au tout début de la prise de conscience de ce qui s'est passé dans le pays, mais la vérité historique, c'est que pendant 12 ans, il n'a pas été question de juger les dirigeants Khmer Rouge, qui étaient d'ailleurs protégés par une coalition internationale qui, au moment où les négociations ont commencé fin des années 80, insistait pour que les Khmer Rouge soient partis à la solution. Alors, ce qui s'est passé, il faut quand même rappeler que le mot génocide était exclu des négociations aboutissant aux accords de Paris. Voilà, moi je tiens à rappeler ça parce que c'est quelque chose qui pèse encore aujourd'hui. Pendant 12 ans, le pays a été complètement isolé et on a privé une population de survivants, pas seulement de survivants du régime de Pol Pot, mais aussi de la guerre, des 5 années de guerre qui avaient précédé. On a privé les survivants des droits les plus fondamentaux à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, à la culture, au travail, au développement, puisque chaque année, à l'initiative de cette coalition sino-occidentale, une résolution était adoptée à l'ONU interdisant toute aide au développement. Et cela, en matière de reconstitution des ressources humaines du Cambodge, ça pèse encore terriblement aujourd'hui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à propos du tribunal conjointement géré par le gouvernement cambodgien et l'ONU. J'étais d'ailleurs expert de l'ONU auprès de ce tribunal. Si on n'a pas pu juger plus de dirigeants Khmer Rouge historiques, dont Pol Pot, et je pense à Tamok, je pense à Son Sen, c'est parce qu'ils étaient morts. C'est parce que pendant toute la décennie 80 et puis le début des années 90, ces gens-là ont disparu. Ce n'est pas la faute des Cambodgiens si le procès le plus connu, le procès reconnu par la communauté internationale, est intervenu très longtemps plus tard. Je voudrais corriger un tout petit peu la demande adressée au secrétaire général de l'ONU par le gouvernement cambodgien, co-présidée par le prince Ranarit et M. Hun Sen, elle a été formulée en juillet 1997. Et il a fallu plus de 6 ans de négociations avec l'ONU qui voulait au départ que ce procès ait lieu non pas au Cambodge, mais ailleurs, avant qu'on ne débouche sur les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Et malheureusement, il ne restait plus que quelques survivants de la direction du régime de Pol Pot. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est évidemment, il n'y a pas une famille vivante aujourd'hui au Cambodge qui soit indemne de cette période. Des gens ont perdu des proches pendant la guerre 70-75 et d'autres, beaucoup plus nombreux, ont perdu, parfois des familles entières ont disparu pendant les années 75 à 79. Ça laisse même 30, 40 ans plus tard ou 50 ans, si on prend comme date de référence, année de référence 75, ça laisse des traces profondes auxquelles s'ajoutent l'énorme difficulté à reconstituer les ressources humaines, je veux dire, telles qu'elles existaient en 1970, puisque la tragédie, en fait, elle commence avec le coup d'État qui renverse Norodom Sihanouk en mars 70. C'est ce coup d'État qui plonge le pays dans la guerre, qui débouche sur la victoire des Khmer Rouges.
Je vais reprendre la main, oui.
Revenir à l'État où était le Cambodge en 1970, ça reste un objectif.
Qui n'est pas toujours atteint. Marie-Sybille de Vienne, quelques mots, après ça je vous repasse la parole.
Oui, je voulais aussi rappeler que les procès n'ont débuté qu'après que l'Assemblée nationale cambodgienne ait voté en mai 2005 un accord avec Washington qui interdisait l'extradition mutuelle des ressortissants des deux pays et qui empêchait notamment le témoignage de ressortissants américains devant le tribunal, les responsabilités américaines étant également considérées dans cette affaire. D'abord le coup d'État de 1970, comme ça a été dit, mais également les bombardements dans les zones rurales tenues en partie par les Khmer Rouges, des lieux autour desquels s'agrégeait la société. Et que pour savoir vraiment l'origine des morts, il faudrait identifier la date de décès des gens dans les fosses, et que ce soit pendant la guerre américaine, les Khmer Rouges et également l'avancée vietnamienne, puisque les populations n'ont cessé de bouger dans tous les sens.
Yvonne Guillou, dans le cadre de votre ouvrage, que je cite à nouveau, « Puissance des lieux, présence des morts sur les traces du génocide Khmer Rouge au Cambodge », vous avez évidemment recueilli des témoignages. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Alors d'abord, je dois dire que je n'ai pas travaillé par témoignage, justement parce que je suis anthropologue. Et ce qui m'a intéressé, c'est de ne pas surajouter une espèce de problématique occidentale, essayer de voir ce que les gens pensaient eux-mêmes, selon leur catégorie et selon leur perception. Donc je me suis installée en fait dans un village, 2 mois par an pendant 15 ans à peu près, dans l'ouest du Cambodge, une région qui a beaucoup souffert aussi parce qu'elle a connu 2 déportations et qu'on a des sources historiques nous expliquant que c'est une région qui a beaucoup souffert, la région de Po Sat. Bon, j'ai évidemment voyagé par ailleurs dans le pays où je vais depuis 1990 et où j'ai fait à peu près 10 ans d'enquête en immersion. Donc, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est le point de vue des gens. Alors là, on sort des politiques mémoriales d'État et on constate que, Raoul Génard viendrait de nous rappeler à quel point ça a été un désastre, un des plus grands désastres humains, probablement. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis le départ, la population, sans aucune aide, comme il vient de rappeler, en tout cas très peu aidée, dans un contexte de grand dénuement, c'est en fait battu avec finalement la richesse de la culture cambodgienne aussi pour déjà prendre soin des morts. Alors on est vraiment dans le cadre d'une mort collective, d'un envahissement des morts. Donc justement pour essayer de prendre soin de ces défunts dans le cadre de cérémonies traditionnelles, notamment la cérémonie annuelle des défunts et puis bien d'autres. Et puis pour essayer aussi, selon les catégories locales khmer, de la culture khmer, de vivre, par exemple, à côté des fosses communes qui sont très, très nombreuses au Cambodge et qu'on ne peut pas, certainement pas attribuer au bombardement américain ou à d'autres, ou à l'invasion vietnamienne, parce qu'elles sont très caractéristiques. Une fosse commune, on voit tout de suite comment les gens sont morts. Donc les catégories locales aussi, l'animisme cambodgien, c'est une culture extrêmement riche qui est hindouisée, qui est aujourd'hui bouddhiste, mais aussi avec un fond animiste. Cette culture-là a permis aussi aux Cambodgiens de prendre en charge, finalement, de revivre. Et je trouve que c'est pas suffisamment vu, parce qu'on parle en général de mémoire un petit peu à la façon occidentale, c'est-à-dire les discours de mémoire, les témoignages, justement. Tout ce travail-là a été fait par le tribunal, le premier comme le second. Mais tout ce travail qui n'est pas forcément un travail de discours, qui est plus un travail peut-être quotidien, de pratique, il y a eu un effort considérable, une énergie considérable mise par les Cambodgiens, y compris à la campagne, y compris dans les zones dont on parle le moins, qui sont les zones rurales, qui ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, parce que certaines étaient aussi considérées comme politiquement suspectes sous les Khmers rouges. Il n'y a pas que les citadins qui aient souffert de cette catégorie mise au banc de la société, qui était ce qu'on appelait la petite Tmei, le peuple nouveau. Et donc, il y a un effort considérable, et finalement, qui a payé, parce que aujourd'hui, on sent une société qui est quand même très jeune déjà et qui fait des efforts pour repartir de l'avant.
En tout cas, on a bien compris toutes les difficultés et combien les choses ont été compliquées. On regardera la manière dont le Cambodge s'est remis sur pied et on posera la question de savoir comment va le Cambodge aujourd'hui dans quelques instants.
ពេលនេះគួររះឡើងខ្ពង់ដូចផ្កាយសុខសប្បាយទាំងប្រុសស្រីសិល្បករសិល្បការនីកំពុងចាប់ក្តីសម័យសូមបើកសំពតថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃខ្ញុំបាទអើយtham to right be will mean them like the khpu ho chngai do lu kru nai da khpu ho bi phai thoy ot dai man chan chai cha chai i said tham to right please do you time me chngai rom le mai kat do man dat me gumnat do you why le do chi sak khum kat dai hum kai khmai yum bi mun os cha yum chi kuch nai asi hai lau min wanda khmai yum bi mun thrai thwa me be dong salapa chrat na leu prang sela san si samot do sa rai sathia pan ron mi samon balang salapa ni kampuchea yu phu kot phu chi kamru thvoe chi kru phchang ye bang kat do bo the sound of a boat lily you hear me they trying to break my soul tan yum chan lom ndol like in the chan yum bomol chum bomol control yeah my look control but we want to get off that low that you hold but I'm this my leg joe pin che kam bai chnai bi joe you know ko yum som rip rop chum riep sanam nai ban dang kum na sim trang bat chang chang trou prang rang pang kum me lich chran na men dai ne na strong dom nai ma ai chang kum thua chi som nai na leu hang ba ke me noi dom lai ro chou prai thua chi sang ba chou tak doi ko pơ na leu chue thua chi chran trai tin tin jeung ruñ ruñ jeung chap chap jeung chap kum bos chao kdai samai men dom lai do thngai sap chvu to mok men bok kroy men riet thol trou bin nyap chap vi ai ban កាន់មកមកជាធៀបមិនបានពេលផ្លូវឲ្យដើរទូបីមានអ្នករំខានមិនដេកកត់តតែសោះថាខ្ញុំធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែតែឈ្នះឆ្ងាញ់លើចិត្តនៃរិទ្ធានឥឡូវបងប្អូនភូមិញអ៊ំកងណៃខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បីដងវែងលកូនបសាសិល្បៈអាយ៉ៃជាបីតន្ត្រីសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យអាយុជាង20តែចង់ហោះដល់បស្សីថាតាមពេលតាមសម័យក៏មួយចេះរៀបចំឲ្យសមប្របីកាយខៃឲ្យខ្ញុំកាយឆ្នៃលើកដាក់ពាក្យពេចឲ្យចុងពេចមានតម្លៃ I wanna know នៅណាសតោពេលដែលឃើញយើងថា I know we know អ្នកខ្លាំងមុននគរដល់ពេលឈ្មោះទៅមុខរូបភាពនេះចម្រើន I said time to write be will mean តម្លៃទៅខ្ពស់ហូចចម្ងាយនៅលោកគ្រូណៃរែខ្ពស់ពីផ្កាយធ្វើឲ្យដៃមិនឆិនឆៃឲ្យឆាឆៃ
Voilà, vous aurez reconnu comme moi le rap cambodgien. La question de savoir comment va le Cambodge aujourd'hui, après ça on va parler de géopolitique. Raoul Marc Génard, est-ce qu'on peut parler d'une société réconciliée ?
C'est une question difficile. C'est vrai que, ça vient d'être dit et très bien dit, on a une population extrêmement jeune, plus de 50% de la population à moins de 30 ans. Donc on a des fils et des filles de survivants. Moi, ce qui me frappe, et tous ceux qui ont étudié les populations et sorties d'un génocide savent que les traumatismes des survivants se transfèrent dans les générations qui suivent, c'est le degré de violence qui existe. J'ai été pendant quelques années pour l'UNESCO responsable d'un programme qui s'appelait Culture de paix et dont l'objectif était d'apprendre ou réapprendre à régler les différends qui peuvent exister dans le couple, dans la famille, dans le lieu de travail, mais à régler ces différends pacifiquement. Ça reste pour moi un défi de la société cambodgienne, qui par ailleurs a connu une ouverture extraordinaire à partir du moment où la pacification est intervenue en décembre 1998, et c'est-à-dire le pays connaissait la paix et la stabilité, les investisseurs sont arrivés. Et on a eu une première vague d'investisseurs thaïlandais, puis japonais, puis sud-coréen, et puis chinois, bien sûr, on va sans doute en parler. Il y avait aussi des investisseurs européens, mais dans une moindre mesure. Ce n'est pas comparable avec ce qu'on peut voir en Afrique, par exemple. Voilà, et donc le pays s'est ouvert sur le monde, et le monde est venu à lui. Il a commencé avec l'opération des Nations Unies, mais après... pendant les périodes où je n'étais pas au Cambodge et puis où je revenais, c'était chaque fois un Cambodge différent que je découvrais. On est dans une phase de développement économique. Je dirais, c'est du libéralisme économique intégral. D'ailleurs, les investisseurs étrangers reconnaissent que c'est un des pays les plus ouverts aux investissements étrangers directs. Et moi, je vois une forme de développement un peu anarchique de l'économie du Cambodge. Mais elle se développe.
Raoul, Marc Génard le disait, Marie-Sybille de Vienne, libéralisme économique intégral. Je le disais en introduction, le 17 avril, le président chinois Xi Jinping était en visite au Cambodge dans le cadre d'une tournée. On sent bien cette volonté peut-être du gouvernement chinois de œuvrer dans son aire géographique à l'heure de la guerre commerciale sino-américaine. Hein. Chacun prend un petit peu ses marques. Quel bilan peut-on faire de la visite de Xi Jinping? On peut rappeler que la Chine est le partenaire principal finalement du Cambodge.
Alors, la Chine est le premier investisseur direct au Cambodge. Et si on ajoute à la fois les investissements directs et puis les contrats de construction, ça représente, chinois, hein, ça représente 64% du PIB du Cambodge. C'est-à-dire que quand on fait le ratio investissement, présence de capitaux chinois divisé par PIB, par la production, le Cambodge se trouve être le numéro 2 en termes relatifs des intérêts chinois dans l'ASEAN, après le Laos, où ce même ratio explose, où il est à 205% à cause de l'hydroélectricité du Laos. Alors, cette omniprésence des capitaux de Chine populaire se voit dans le paysage urbain avec la condition d'hôtels, d'immeubles, le développement d'entreprises de tous ordres, le développement de plantations à capitaux chinois pour combler les besoins alimentaires chinois et autres. Donc, on a une très forte présence économique. À l'intérieur de cette forte présence économique, vous avez les gros projets d'infrastructure. Donc, ça n'a rien d'étonnant. La Chine est mentionnée, les autorités cambodgiennes aussi, le fameux projet du Funan Techno qui constituerait pour le Cambodge à contourner le delta du Mékong.
Ça, c'est un canal. Hein,
un canal, oui.
Un canal de 180 kilomètres de long.
Et qui permettrait de contourner, si vous voulez, le delta du Mékong dans la main des Vietnamiens, de m'avoir manière à faciliter ses accès à la mer. Alors, c'est un projet qu'on peut comparer au projet qui revient régulièrement sur le tapis de couper l'isthme de Kra pour contourner Singapour entre la mer des Andamans côté birman et le golfe de Thaïlande. Simplement, du côté cambodgien, le projet a officiellement commencé en 2024, donc il est plus engagé. Et là-dedans, on est directement dans les modes de pénétration de la Chine via la Bayerie. Et lorsque vous cartographiez les implantations chinoises au niveau des infrastructures, dans l'océan Indien, vous voyez qu'elles se trouvent dans des zones portuaires et au débouché d'axes qui sont des axes fluviaux.
Alors, pour ce qui est du bilan de la visite de Xi Jinping, peut-être on repart à Phnom Penh avec vous, Raoul-Marc Génard, pour dire quelques mots sur le plan militaire. Alors, oui, relations commerciales très importantes entre la Chine et le Cambodge. On parle d'alliances stratégiques entre les deux pays. Je mentionnerai la question de la base navale de Réam sur la côte sud, qui a été modernisée avec l'aide de la Chine. Officiellement, il s'agit d'un partenariat logistique, mais qui inquiète particulièrement les États-Unis, Raoul-Marc Génard.
Beaucoup moins depuis une bonne année, puisque la base de Réam est ouverte à la visite de bâtiments de guerre de tous les pays qui souhaitent. Et on vient d'avoir la visite d'un croiseur japonais. C'est vrai que les États-Unis avaient été heurtés parce que les travaux d'agrandissement de cette base avaient amené à démolir des bâtiments que les États-Unis, dans le cadre de la coopération militaire avec le Cambodge, que les États-Unis avaient financé. Et à partir de là, comme les États-Unis étaient remplacés, si j'ose dire, par la Chine, il y avait une suspicion de créer une base chinoise, comme il y en a une à Djibouti, par exemple, au Cambodge. Ce que la Constitution interdit, et le gouvernement cambodgien n'a pas cessé de répéter que l'article de la Constitution qui interdit l'installation de bases militaires étrangères. Et le gouvernement n'a pas cessé de dire aussi que comme la base peut être visitée par n'importe quel pays qui souhaite faire ce qui se fait beaucoup, des visites qu'on appelle amicales, un navire de guerre, je sais pas moi, britannique, japonais, sud-coréen, fait escale 3-4 jours, eh bien la base de Réam est aujourd'hui ouverte. Moi je dirais qu'avant l'arrivée de M. Trump à la présidence des États-Unis au début de cette année, il y avait eu des contacts de haut niveau d'ailleurs entre les autorités militaires cambodgiennes et les autorités militaires américaines. Le commandant des forces américaines pour le Pacifique est venu à Phnom Penh et que depuis lors, sur ce plan-là, les relations semblent s'être apaisées, d'autant que en matière de coopération, et là je vous parle évidemment avant
les nouvelles
la
mesures.
Fermeture de USAID, de l'agence d'aide au développement, l'aide américaine était importante. Oui. Et je dois rappeler quelque chose qui est quand même...
Très rapidement, si vous permettez.
Le Cambodge est sensible, y compris dans la période où les États-Unis condamnaient la République populaire du Cambodge. Le gouvernement cambodgien a toujours aidé les missions américaines qui cherchaient les dépouilles des pilotes et des militaires américains tués pendant la guerre. Et c'est une opération qui se poursuit. Il y a donc là une collaboration qui continue. Je voudrais dire, à propos de la visite de M. Xi Jinping.
On en reparlera dans quelques instants, si vous voulez bien, Raoul-Marc Génard. On fait une petite pause et on abordera à nouveau la question, mais je vous demanderai d'avoir la gentillesse de faire peut-être des réponses un tout petit peu plus concises, de façon à ce que Marie-Sybille Devienne puisse également dire quelques mots sur les questions de géopolitique. On vous retrouve dans quelques instants.
Yeah.
Ambros Serrey et Sotilla, je ne sais pas si je prononce bien le nom de cette chanson, Le destin de la fille du pêcheur. Nous retrouvons Marie-Sybille de Vienne, Anne-Yvonne Guillou et Raoul-Marc Génard pour parler du Cambodge. Raoul-Marc Génard voulait qu'on reparle de la visite récente de Xi Jinping au Cambodge, Marie-Sybille de Vienne. Mais j'ai tout de même cette question qui apparaît beaucoup. On a évoqué là aussi la relation avec les États-Unis. Et cette question, est-ce que le Cambodge est encore souverain dans ses choix et de plus en plus dépendant? Vous évoquiez très rapidement tout à l'heure les questions de l'ASEAN, le Cambodge étant membre de l'ASEAN. Pour parler de la relation avec la Chine, il a, le Cambodge, un rôle assez critiqué au sein de l'ASEAN, un peu le cheval de Troie de la Chine au sein de cette organisation.
Je dirais que c'est pas tellement le cheval de Troie, c'est le ventre mou avec le Laos, compte tenu de l'importance de la présence chinoise, à la fois matérielle, visible dans les investissements, mais également de la présence du nombre de ressortissants de Pékin qui sont toujours en nombre croissant au Cambodge. On est vraiment là dans le ventre mou, et ça s'est vu sur la question du code de conduite en mer de Chine méridionale. Chaque fois qu'il a été question de revenir dessus, le Cambodge et Laos, mais le Cambodge en tête, se sont distingués du vote de leurs autres partenaires de l'ASEAN sur ces questions-là. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, il a été très difficile de sortir un communiqué et d'arriver à faire un consensus. Ça s'est revu aussi avec des positions après le coup d'État au Myanmar en 2021. Et là-dessus, le Cambodge a eu tendance à aligner sa position plus sur celle de la Chine quand d'autres pays ont essayé de s'en distinguer, y compris le petit Brunei qui a eu à ce moment, dans cette phase critique, la présidence de l'ASEAN. Donc on a une posture d'alignement diplomatique visible sur la Chine, ce qui ne veut pas dire que les Chinois contrôlent à 100% le Cambodge, tant s'en faut, puisque l'histoire du Cambodge a prouvé que contrôler le Cambodge était extrêmement difficile à toute ambition hégémonique, quelle qu'elle soit.
Anne-Yvonne Guillou.
Oui, pour continuer sur ce que vient de dire Marie-Sybille de Vienne, c'est vrai qu'il faut parler quand même aussi de la politique intérieure. On a quand même très bien senti au moment où les investissements directs chinois et la présence peut-être, enfin la présence politique et puis les investissements se faisaient de plus en plus lourds, de plus en plus pressants au Cambodge depuis une dizaine d'années. On a aussi senti sur le plan de la politique intérieure cambodgienne un raidissement très clair, hein, donc ça va aussi de pair.
Alors, un raidissement clair, oui, il est vrai que le Cambodge est politiquement verrouillé à l'intérieur. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Marie-Sybille Leviel, mais je termine juste pour dire qu'il est aussi pris dans des jeux d'influence régionaux, mondiaux, qui pèsent lourdement finalement sur ses choix stratégiques.
Bien sûr, ça reste un petit pays, ça reste un petit pays pauvre et un petit pays avec une façade maritime réduite dans une région qui est en permanence sous tension compte tenu de sa position articulatoire et en même temps soumis à des croissances qui sont des croissances économiques très fortes et à des distorsions de niveau de vie à l'intérieur de la population qui sont également de plus en plus fortes. Et pour revenir sur le rapport à la Chine, vous avez à l'intérieur même du Cambodge, entre les hommes d'affaires traditionnels sino-khmer qui sont revenus à partir du début des années 90 et les firmes qui viennent de Chine populaire, vous avez des tensions parce qu'ils se trouvent en compétition sur un certain nombre de marchés, sur un certain nombre de projets. Et ceux qui ont l'appui du rouleau compresseur chinois, c'est les investisseurs de Chine populaire, pas forcément les autres, et que c'est quelque chose de compliqué. Surtout que derrière, vous avez un factionnalisme séculaire et qu'un certain nombre d'acteurs entrepreneuriaux sino-khmers sont proches du pouvoir.
Compliqué aussi, Raoul Génard, les relations du Cambodge avec ses voisins que sont le Vietnam et la Thaïlande.
Moins que ce ne le fut, mais ça reste effectivement de deux grands voisins qui ont eu, avant par exemple la période coloniale française, ces deux voisins avaient des appétits énormes à l'égard du Cambodge, puisque dans la première moitié du 19e siècle, le Cambodge a été tour à tour complètement annexé par le Siam et puis annexé par l'Annam. Bon, on n'en est plus là, bien entendu. Mais nous avons, et je suis bien payé pour le savoir, toujours de grandes difficultés à boucler des négociations sur la détermination du tracé des frontières avec les voisins. Les choses ont beaucoup avancé avec le Vietnam. Il reste quand même encore 14% de la frontière commune à borner, donc à se mettre d'accord par où elle passe. Nous n'avons pas d'accord pour le moment avec la Thaïlande, qui récuse les traités passés par la France au nom du Cambodge en 1904 et en 1907. Et vous savez qu'on a dû aller deux fois devant la Cour internationale de justice pour régler le problème de la propriété d'un temple à cheval sur la frontière et ensuite de son environnement. Voilà, les relations ne sont pas faciles.
Non, absolument.
Cela dit...
Très rapidement, Roljana.
Le Vietnam et la Thaïlande sont parmi les 10 premiers investisseurs au Cambodge.
Alors, quand vous disiez nous, et vous étiez bien placé, je rappelle juste pour nos auditeurs que vous êtes actuellement conseiller diplomatique du ministre cambodgien des Affaires étrangères. C'était important de le rappeler. Marie-Sybille de Vienne, la question de la relation du Cambodge avec l'Union européenne, on n'en a pas du tout parlé. Je ne sais pas si on revient aussi sur la guerre commerciale sino-américaine qui était effectivement une mauvaise affaire pour le Cambodge, c'est tout à fait clair.
Oui, alors les relations du Cambodge avec l'Union européenne sont des relations qui sont bonnes, avec des partenariats de coopération, soit par le biais de l'ASEAN, soit au niveau bilatéral, notamment avec la France. Il n'en reste pas moins que les investissements originaires de l'Union européenne représentent fort peu de choses par rapport aux investissements asiatiques et aux investissements chinois. Alors, pour ce qui est des relations commerciales, le Cambodge est exportateur en numéro un de produits de la confection. Et sur les dernières années, les exportations vers l'Union européenne étaient à peu près au même niveau que les exportations vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'au départ, le Cambodge était dans une situation quasiment d'avoir un monoclient, les États-Unis. Au seuil des années 2020, les deux acteurs se retrouvent à peu près avec le même pourcentage des exportations cambodgiennes. Il est évident qu'avec l'arrivée de Donald Trump, que c'est très mauvais pour le Cambodge, mais pas autant qu'on aurait pu le croire, compte tenu de ce que représente l'Union européenne. Et à ce niveau-là, si l'Union européenne s'intéresse au Cambodge, ça devrait peut-être être possible, au moins dans une phase transitoire, de lui accorder quelques facilités.
Et ce qu'on peut rappeler, c'est les exportations cambodgiennes à destination des États-Unis, de l'Union européenne, c'est beaucoup du vêtement.
C'est du vêtement.
L'industrie du vêtement est très importante. 17 millions d'habitants, 1 million d'employés autour de cette industrie du vêtement. Marie-Sybille de Vienne.
Alors, il y a, oui, un certain nombre d'employés, mais on est également quand même surpris quand on voit la ventilation des investissements étrangers, du relativement peu d'investissements étrangers que vous avez dans le secteur des vêtements par rapport au pourcentage des vêtements dans les exportations cambodgiennes. Ce qui veut dire, quelque part, que tous ces vêtements ne sont pas produits même au Cambodge, mais qu'un certain nombre proviennent certainement de Chine là-dessus.
Anne-Yvonne Guillou.
Oui, peut-être pour ajouter un mot, vu depuis la population aussi. Bon, jusque dans les villages cambodgiens, c'est une activité qui est très importante. On voit que depuis la monétarisation, l'entrée du Cambodge dans l'OMC, donc la monétarisation des économies villageoises qui sont finalement assez tardives, l'industrie textile qui arrive même jusqu'aux provinces, etc., avec l'amélioration de l'infrastructure routière, est aussi aujourd'hui importante dans l'apport monétaire dans les villages.
Oui, je dis que c'est un secteur qui fait vivre beaucoup de gens directement et indirectement. Et de ce point de vue-là, les positions prises par Trump vis-à-vis du Bangladesh, ça n'aurait rien d'étonnant à ce que celle vis-à-vis du Cambodge devait mordre. En tout cas, ça, à terme, les deux s'ajustent. C'est évidemment catastrophique.
Anne-Yvonne Guillot.
Et on peut peut-être ajouter que, justement, il y avait là un levier, l'Union européenne est certainement plus sensible que la Chine à la question de la démocratie, la question de la démocratie intérieure, au fait de mener une vie démocratique à l'intérieur du pays. Et donc, il y a quelques années, justement, c'était un levier aussi pour l'Union européenne, qui avait d'ailleurs émis des sanctions dans l'accès de son marché aux exportations cambodgiennes.
La conclusion de cette émission s'impose. Il nous reste une minute pour arriver au bout. Raoul Magenar, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire en guise de conclusion ?
Mais moi, je pense que ce que je dis à tous les représentants des pays occidentaux depuis 1989, enfin, à l'époque, il n'y en avait pas. C'est après les accords de Paris qu'on a vu des ambassadeurs arriver. Mais si on veut aider le Cambodge, il faut l'aider dans le secteur de la formation. La reconstitution des ressources humaines reste un défi. Je rappelle que M. Akashi, qui était le patron de l'opération des Nations Unies, avait dit ces mots qui étaient très forts. Ce pays a été ramené à l'âge de pierre. Alors, s'il est aisé et assez rapide de reconstituer des bâtiments, des ponts, des routes, des infrastructures, reconstituer les ressources humaines dans tous les secteurs, c'est une tâche qui reste à accomplir, qui est en cours, mais ça me semble, si l'on veut passer un message en faveur du Cambodge, c'est le message qu'il faut lancer et de préférence offrir aux jeunes Cambodgiens des bourses pour qu'ils puissent se former à l'étranger.
Merci Raoul Marc Génard. Je rappelle que vous êtes docteur en politique, en sciences politiques et en études de Khmer de l'INALCO, conseiller donc diplomatique du ministre cambodgien des Affaires étrangères. Et votre dernier ouvrage, La politique étrangère du Cambodge, paru aux éditions Youfeng. Merci aussi à Marie-Sybille Devienne, professeure émérite à l'INALCO, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et directrice de la revue Péninsule. Et à Yvonne Guillou, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, en poste au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'Université Paris-Nanterre et autrice de Puissance des lieux, présence des morts sur les traces du génocide de Khmer Rouge au Cambodge, paru aux éditions Société d'ethnologie. Vous êtes aussi Yvonne Guillou, co-directrice en chef de la revue Mousson. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani pour la réalisation et Cécile Lavolo. Je signale l'émission Le goût du monde de Clémence Denavitte sur le curry cambodgien. Vous êtes bien sur RFI, restez à notre écoute. Dans quelques instants, Dimanche politique, suivi du magazine Idées, mais tout de suite le journal.